De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit deux.
Et bonjour à tous, bienvenue pour cette émission spéciale en direct du Marvelous Pop Festival qui démarre dans quelques instants. Alors, qui démarre dans quelques instants parce que vous entendez cette émission le vendredi à midi et demi, mais nous sommes la veille au soir, il est jeudi, c'est à peu près 19h30. C'est la soirée des bénévoles. D'ici à demain, beaucoup de choses peuvent se passer. On ne sait pas ce qui peut se passer parce qu'il y a beaucoup de festivaliers qui peuvent venir. On sait que Madou a annoncé que le camping était gratuit, un peu comme dans Hôtel Woodstock. Aussi bien, il y a 750 000 personnes qui vont venir en ce moment même, qui vont créer des bouchons, ce qui tombe bien parce que les bouchons, c'est un peu le thème de cette année. Salut Karim.
Bonjour, bonjour.
Karim, président de l'association Les Bouchons.
Et les bouchons, c'est un petit peu la thématique, la sous-thématique de cette année. Donc comme vous l'avez, comme tu l'as dit, Marvelous cette année c'est la 5e édition, et pour cette 5e édition on a décidé de mettre à l'honneur les grands départs en vacances. Les premiers congés payés c'est 36, mais les départs massifs en vacances c'est dans les années 50, 60 notamment que ça a débuté. Et quand on parle de grands départs en vacances, bien sûr il y a embouteillage, et Marvejol n'y a pas échappé bien sûr quand il y a eu cette heure de gloire. Les embouteillages qui bouchaient depuis Entrenas jusqu'à la sortie de la ville.
Alors, tu n'as pas connu, toi, ces bouchons?
Non.
Non.
Non,
mais
non.
Tu vas peut-être les connaître.
J'espère.
Petite surprise qu'on verra tout à l'heure. Fabien est là aussi qui va nous parler des soirées. Salut Fabien.
Bonsoir.
Madou qui va nous donner des fausses informations durant toute cette émission. Salut.
Salut.
Et Marie qui est présente, qui va nous parler avec Madou un peu du festival, de ce qui va se passer en art de rue surtout.
Bonjour, c'est ça.
Voilà, parce qu'on le rappelle, hein, toute la journée des spectacles d'art de rue, le soir bien sûr des concerts, et on va se répéter, mais c'est un festival qui est entièrement gratuit, hein, Karim.
Exactement.
Alors cette année, donc les départs en vacances qui jouent sur plusieurs années, 50, 60, voire 70, tu l'as expliqué, est-ce que ce sont des thèmes qu'on va retrouver durant le festival, notamment au niveau de la soirée d'ouverture qui aura lieu demain?
Ce sont des thèmes, qu'on va pouvoir retrouver dans tout le festival, j'ai envie de dire, à travers toutes les performances, les animations et les prestations artistiques qui vont être proposées dans le festival. Et cette année, j'ai envie de dire, le festival, le Marvelous, a toujours été 50, 60, 70. Cette année, on va plutôt faire 60, 70. Les grands départs en vacances, années 60. Et puis, notamment, pour la clôture du festival, on a toujours eu l'habitude de proposer des soirées, on va dire, un peu rock garage. Et cette année, on va un petit peu dévier. Pour s'orienter vers une soirée plutôt soul funk dont on aura l'occasion de vous parler tout à l'heure plus en détail.
Voilà, on va en parler plus en détail. On pourra écouter après cette émission aussi une des émissions de l'émission du Sillon Lozé qui nous a fait une émission de plus de 2 heures consacrée uniquement à la programmation de ce festival, donc on pourra entendre en détail. Et on va aussi également entendre un DJ qui sera présent ici. Je reviens sur les bouchons. On va créer un bouchon dans la ville de Marvejol. On va prévenir nos auditeurs qui le sachent. S'ils passent par Marvejol, ça sera bouché.
Ça sera bouché. Et s'ils souhaitent participer, ils sont les bienvenus.
Ils n'auront pas le choix de toute façon.
Exactement. Mais dans l'absolu, s'ils peuvent venir avec une vieille 403, une 203, une AMICI, ça serait encore plus joli, encore plus parfait.
On se rappelle, donc là on est au niveau de la plage, il y avait des camping-cars les années précédentes, d'époque, des Volkswagen. Est-ce qu'on va les retrouver cette année? Est-ce qu'on va retrouver des voitures de collection ou des vélos ou autres?
Exactement, du coup là on est sur le site plage, sur l'esplanade de Marvejol au bord de l'eau, presque je dirais même les pieds dans l'eau. L'idée cette année on a recréé un camping, un double camping, donc on attend pas
qui est
mal,
gratuit.
Qui est gratuit aussi.
Enfin, pas tout à fait, donc c'est,
voilà.
Si je dis pas de bêtises, voilà. C'est 5€ par emplacement, par nuit.
Merci Fabien.
Du coup voilà, on a un camping, du coup des gens, on attend des gens avec des vieilles canadiennes, pourquoi pas. Il y en a déjà quelques-unes qui commencent à s'installer. En me tournant je vois qu'il y a déjà une paire de véhicules qui sont déjà arrivés. Et on en attend encore d'autres qui doivent venir tout au long du week-end s'installer.
Donc on invite bien sûr les gens aussi à s'habiller de ces années-là, de ces années d'époque. Je dirais pas déguisés parce que finalement c'est pas des déguisements, en plus ça revient à la mode. Il y aura toujours la friperie et la possibilité de trouver des vêtements sur place.
Exactement, et c'est d'ailleurs ce qui fait la richesse et le succès de ce festival. C'est-à-dire que les festivaliers eux-mêmes contribuent à l'esthétique du festival de par les tenues qu'ils revêtent, de par... leur façon de se comporter, de par la musique qu'on pourra écouter en ville, c'est un ensemble qui contribue à l'esthétique générale du festival.
Madou veut rajouter quelque chose.
Non, Madou ne dit rien.
Non.
Non, Madou parlait aussi de l'atelier coiffure qui sera donc sur la place Cordès pendant 2 jours. Donc si vous avez envie, après vous êtes bien habillé, venir vous faire coiffer, il y aura possibilité.
Des ateliers, mais on va continuer à parler des ateliers tant qu'on y est. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme autres ateliers ici?
Alors il y aura un atelier, mais puisque vous êtes, une fois que vous êtes habillé, une fois que vous êtes coiffé, il ne reste plus qu'à vous apprêter. Et il y aura un atelier notamment de loisirs créatifs où vous pourrez justement apprendre plusieurs choses, dont la confection de boucles d'oreilles avec des vinyles bien sûr recyclés, on va dire ça comme ça. La confection de produits ménagers, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Ça fait partie des performances aussi proposées par les Formicables. Parmi lesquelles on va retrouver, une fois qu'on est habillé, qu'on a apprêté, avant de sortir, il faut aller manger. Et pour avant de manger, une épicerie bien sûr, du coup, c'était inéluctable. Vous pourrez retrouver des petits souvenirs d'antan, des biscuits, des bonbons, des fruits bien sûr, des ustensiles. Et on est vraiment, c'est une friperie dans laquelle on a essayé de recréer le décor et l'univers d'une épicerie d'antan.
Voilà, ça c'est une des nouveautés de cette année.
Exactement, ça c'est une des nouveautés.
D'accord, pas trop compliqué à mettre en œuvre ?
C'est toujours un nouveau challenge, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, quand on réitère un atelier, une performance, on a toujours un petit peu de recul, on a l'expérience. Mais quand on se lance dans un nouveau projet, on ne sait pas réellement vers quoi on va. Et puis du coup, c'est toujours la recherche de matériaux, de partenaires, enfin voilà. Et cette année, vraisemblablement, c'est quelque chose qui a bien marché grâce à l'adhésion, encore une fois, des bénévoles qui veulent bien jouer le jeu aussi.
Elle se situe où, cette épicerie ?
Alors, c'est une épicerie éphémère, bien sûr, qui dure le temps du festival et qui se situe dans la rue Chanel, donc ou Jules Rougeon, dans Marvejols. C'est un ancien local commercial qui a été, bien sûr, réaménagé pour l'occasion.
Vous mettez toujours ces longues tablées sur la rue principale pour pique-niquer pendant le festival ?
Exactement, ouais. Du coup, ça fait partie maintenant des éléments phares du festival. Du coup, ça se fera samedi midi. L'association propose ce qu'on appelle un pique-nique chic. Le concept de ce pique-nique chic, c'est un pique-nique qui se déroulera sur un principe de table ouverte. C'est-à-dire qu'on va déployer une table qui fait quasiment 250 mètres de long, donc d'un bout à l'autre de Marvejols, d'une porte à l'autre, pour être plus précis. Et le principe de cette table ouverte, c'est que chacun puisse ramener quelque chose à manger. Donc soit depuis chez lui, soit acheter le pique-nique qui est proposé par l'association, c'est un petit panier garni ou dans lequel on pourra retrouver un menu complet, soit aller acheter quelque chose chez un traiteur ou au marché même. Et du coup, je profite également pour préciser à tous les auditeurs que s'ils souhaitent profiter du pique-nique proposé par l'association, les tickets sont en vente à partir du vendredi soir et de ne pas hésiter à venir au petit matin ou plus tard samedi matin puisque...
Ça part vite.
Exactement. Et les paniers sont comptés.
Combien de temps on met pour préparer un festival comme le Marvelose ? Fabien ?
On met du temps. Pour être sûr qu'il y en a un qui est fini, on pense déjà à celui d'après. C'est vrai que là, on a remis la machine en route début 2019. On en a parlé avant, bien sûr, mais ouais, début 2019, on s'y met vraiment. Et puis après, mois de mars, avril, ça, voilà, on doit faire la programmation, art de rue et soir. Et puis là, ça fait quand même 2 mois que. Voilà.
Disons que d'une année sur l'autre, le festival ne s'arrête pas à la clôture du festival, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'une fois que le festival est terminé, il y a un temps pour le démontage, et puis ensuite un second temps pour tout ce qui est, on va dire, l'analyse du festival. Faire le bilan moral, présenter les comptes, ainsi de suite. Il y a tout un tas de choses à régler. Ce qui nous amène quasiment, on va dire, bien sûr, comme tout un chacun, on prend un peu de repos, quasiment en fin d'année. Et en fin d'année, on rembraye directement sur la saison suivante, puisqu'il faut déjà repérer certains spectacles pour être sûr de pouvoir les présenter à l'édition qui suit. Donc ça ne s'arrête jamais en définitive.
Alors là, on est à la soirée des bénévoles. On va en dire un mot parce que sans les bénévoles, bien sûr, ces festivals n'existeraient pas. On a combien de bénévoles un peu qui viennent aider pendant le festival, le temps du festival ? Marie ?
Il y a environ, durant les 3 jours du festival, 120 bénévoles. Et après, à l'année, quand on fait nos grandes réunions 2 mois avant, on est une trentaine, quarantaine aux réunions.
Vous avez des associations partenaires sur le festival ?
Alors, on a plusieurs associations. Donc, on a déjà le Ciné-Club de Marvejols qui va nous proposer, du coup, cette année, le film Hôtel Woodstock pour les 50 ans de Woodstock. Après, on a le partenariat avec le Sion Lozé qui nous fait la programmation des sites soirs. Et après, on a on a tous les décors qu'on voit ici au bord de la Collagne avec l'hangar au gorille. Donc c'est la branche bricoleuse du Red Boy Crew, Festival Dolt. Karim, il y en a d'autres encore, j'ai oublié.
Oui, les partenaires en fait. Ce qui encore une fois fait la richesse et la force de ce festival, c'est réellement que tout le monde s'implique en fait. Et du coup, les partenaires sont pour certains officiels, pour d'autres le sont un peu moins, mais j'ai notamment une pensée pour tous les ateliers du Claude Uni qui nous ont aidé à préparer quand même pas mal de scénographie pour le festival. Ce sont des petites mains de l'ombre, mais sur lesquelles on peut compter d'une année sur l'autre et qui nous aident drôlement pour des petites choses qui parfois peuvent prendre beaucoup de temps. Je pense aux commerçants qui jouent le jeu aussi, parce que ce qui fait la force, encore une fois, c'est que tout le monde contribue à l'esthétique avec les vitrines qui sont déployées. Je pense au tennis club qui viendront demain, samedi, assurer des tournois de tennis
d'époque.
Exactement, avec des raquettes en bois, enfin voilà, sur l'esplanade. Je pense à la petite bête qui viendra bien sûr assurer une brocante vintage le long des puces.
On peut parler aussi des
dimanches.
Des écoles de danse, de Mio et de Mande, pour les initiations au Lindy Up.
Et il y a aussi les amis d'Emmaüs qui nous fournissent pas mal de meubles, de déco, voilà, qu'on vient pêcher chez eux. Voilà, et qui nous prêtent gracieusement là, pour les 3 jours du festival.
Donc voilà, donc les Formicales, vous voyez, ça ratisse large. Et ce qui fait la force du Marvelous, encore une fois, c'est que vraiment tout le monde s'implique et tout le monde souhaite que l'événement se reproduise d'une année sur l'autre et tout le monde souhaite apporter sa pierre à l'édifice.
On a là combien d'éditions, rappelle-nous, Karim ?
Là, aujourd'hui, en fait, la 5e édition. Ça prête à ouvrir la 5e, en tous les cas.
On va parler de la soirée d'ouverture qui a lieu ce soir, vu que cette émission passe vendredi midi. Fabien, tu veux nous en dire un mot ? Donc, tu as parlé d'Hôtel Woodstock, ce qui va être projeté où et à quelle heure ?
Alors, il y aura Hôtel Woodstock à 21h30, du coup, sur la place Giroux.
Excellent film que je vous conseille.
Voilà, c'est basé, du coup, sur l'histoire vraie de la création du festival. Donc c'est un film voilà, qui est plutôt pas mal. Après on peut aussi parler, alors là, on va faire une petite digression, mais on peut peut-être attaquer par l'ouverture.
Vas-y.
Donc on a la troupe des Lunatiques qui va venir dès 18h, donc sur le même endroit là, que du cinéma en plein air, sur la place Giroux, et qui va nous faire un petit théâtre improvisé. Donc les Lunatiques, c'est une petite troupe de théâtre qui s'est montée à Marvejol il y a un an, et voilà, qui vont nous faire un petit spectacle, un petit préambule au festival avant l'inauguration, qui aura lieu à 18h45. Et ensuite, ben, on part à 20h, on a Alexis Evans, qu'on est très content d'avoir. On va être plutôt sur Soul, Rhythm and Blues. Et voilà, je pense que ça va être une super soirée.
Et on termine en clôture par...
Et après, en clôture, on a DJ Sirkis, qu'on reverra aussi le samedi en ouverture à 20h.
Voilà, qui est déjà là et qu'on va pouvoir entendre tout à l'heure.
Voilà, ouais.
Les concerts ont lieu le soir, les spectacles de rue après en journée, donc on démarre tambour battant dès le samedi matin. Comment ça se passe, Marie ?
Alors effectivement, il va y avoir, on a 4 grandes compagnies qui vont jouer chacune 2 spectacles, un le samedi et un le dimanche. Et on commence samedi matin avec la compagnie Content pour peu, donc c'est un duo clownesque, c'est des acrobates. Voilà. Ensuite, on a la compagnie du vide avec un spectacle pareil, plutôt clownesque. Ensuite, nous avons la compagnie Tout en vrac avec un spectacle, une recette de cuisine qui ne se déroule pas tout à fait comme le voudrait la cuisinière. Voilà, un petit spectacle, on pourrait même dire pyrotechnique. Ensuite, nous avons un funambule qui va venir place Louis Régal le samedi donc et le dimanche. Et enfin, nous avons le crieur de la Croix-Rousse. Donc c'est un crieur qui va faire des criers publics pour déclamer tous les messages que les festivaliers pourront déposer dans des boîtes tout au long du festival. Et nous avons la compagnie Écoute ça, qui est donc une compagnie d'ici, qui va proposer des siestes musicales et un atelier de création sonore à partir de bandes magnétiques. Voilà, ça, ce sera au lavoir. Et nous avons la fanfare des Monty Pistons qui va être en déambulation pendant les 2 jours. Voilà, pour participer à l'ambiance générale et pour aussi amener les festivaliers d'un endroit à l'autre.
Madou. On peut rajouter en déambulation également la compagnie des Imprévérisibles qui nous font le plaisir de revenir cette année encore et qui eux viendront vous initier à la funk pour pouvoir vous préparer et vous échauffer à la Soul Train qui aura donc lieu le dimanche soir à la soirée du bal pop, donc pour le 14 juillet. En atelier aussi, on aura le Hula Hop. Donc, on a une dame de pareil, locale, qui va venir nous faire une initiation de Hula Hop qui sera un peu à la plage, un peu sur la passe Cordès, en fonction de ses envies et surtout des jours d'emplacement. Et qu'est-ce qu'on aura d'autre ? On aura donc des ateliers de danse qui, eux, auront lieu sur l'esplanade, sur la place Cordès, pardon. Donc, proposés par les écoles de danse de Millau et de Mende, qui vous initieront donc à la Lindy Up.
Ouais, donc, Lindy Up. C'est une barre. Explique-nous ce qu'est le Lindy Up.
Le Lindy Up est une danse des années 30. Bon, d'accord, on n'est pas tout à fait dans le thème. Mais ça, quand même, c'est
mais ça a perduré dans le temps, donc en 50-60.
Ça permet 60. De faire du rock'n'roll assez facilement et généralement ça marche bien pour danser le soir au concert. Il y aura également Peter Weir qui revient cette année, qui était déjà venu l'année dernière. Ouais. Et lui nous fera des performances artistiques, plutôt des anamorphoses. Il sera également sur la place d'Orade, juste derrière les ateliers animés pour les cahiers de vacances. Bon, là, ça sera les cahiers de vacances. C'est ce qu'on met à l'honneur pour les enfants. Il y a donc les jeux pour les enfants qui seront proposés. Mais il y aura également les jeux pour les adultes, avec notamment le concours de machine à écrire, la dictée à la plume, et tous les petits ateliers, les exercices de maths aussi. Exactement.
Proposé par mon ancien prof de maths.
Ah,
mon ancien
génial.
Professeur de maths à Marseille.
Ça, c'est vintage.
Donc ça, pour le coup, ça date.
On est sûr qu'au moins, il aurait la réponse,
voilà,
la solution au problème.
Voilà, M. Cazot, du coup.
D'accord. Génial, ça. Comment il est arrivé ici ? C'est toi qui allais le voir ou il s'est...
Disons que c'est un Marve Jolet qui a souhaité apporter encore une fois sa pierre à l'édifice. Et du coup, quand il s'est proposé, bah, c'était bien sûr le bienvenu. Et puis, on ne pouvait pas le placer ailleurs que là. C'était réellement, il sera dans son rôle et c'est ce qu'il a très bien fait d'ailleurs, puisque maintenant il est retraité et nous on est ravis de l'accueillir pour tout ça du coup, c'est génial.
Exercice de maths, concours de machine à écrire, vous aimez pas les gens ou qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien au contraire, puisque les machines à écrire c'est une animation qu'on a réussi à proposer dès la première édition. On aurait aimé changer, mais malheureusement on peut pas puisque les gens maintenant le demandent d'une fois chaque
réclame.
Année. Réclame et du coup on peut plus s'en défaire.
Et en nouveauté aussi, on peut parler de l'imprimerie, le musée des deux Alberts, qui se trouve à Marvejols, qui va retrouver son nom d'antan, à savoir l'imprimerie
Camille Guerrier,
où les festivaliers pourront imprimer des cartes postales.
Ah, génial.
Édition limitée, puisque les cartes sont numérotées à l'effigie du festival. Et du coup, il y aura possibilité d'imprimer des cartes postales du Marvejols et des grandes affiches de réclame qui annoncent l'événement également.
En parlant d'impression,
il va y avoir un labo photo aussi qui va se trouver dans le local de la friperie où là les festivaliers pourront venir avec des vieux négatifs et les développer sur place dans une chambre noire. Voilà. Et il y a le labo photo, mais il y a aussi le studio photo qui sera place Cordès où les festivaliers, une fois coiffés et maquillés, puisque c'est juste à côté, pourront se faire prendre en photo dans un décor. Cette année, ce sera la cuisine en formica. Voilà.
Madou.
Je pense qu'on a fait deux petits oublis dans notre programmation. Il me semble qu'on n'a pas parlé de Théo, qui est quand même notre magicien local. Il faut en parler parce que Théo, il va se promener pareil en déambulation et il va nous faire des close-up dans la ville pour nous montrer quelques tours de magie. Et il fera aussi un spectacle sur la place Cordès le samedi, à ne pas louper. Et juste parce que j'y pense, il y a aussi également les conférences qui vont avoir lieu dans la rue droite, donc dans la rue de la République, pas très loin du Royal. C'est une conférence sur les pionnières des années de ces années-là. Donc, si vous avez un peu si vous oubliez qui étaient Françoise Sagan et Simone Veil, je pense que la conférence peut vous éclairer.
Karim, petite précision ou pas ? Tout est bon ?
Tout est bon. Pour une fois, Mathieu n'a pas dit de bêtises. C'est bon. On peut respirer un grand coup.
Bon.
Et on peut juste compléter, rajouter, je pense, et ensuite on aura à peu près fait le tour. Parler de Régis. Régis qui est bien sûr, j'ai envie de dire presque l'emblème de Marvejols, presque une des mascottes, et qui est connu pour être un amoureux de toute la vieille mécanique, et qui du coup remonte le rétro-garage, un rétro-garage à Marvejols, du coup, et cette année la thématique pour lui ce sera autour des deux roues, et notamment des mobilettes, et du coup il remonte un garage d'époque avec une vieille pompe à essence, des plaques émaillées, et lui c'est un passionné. Enfin, donc si vous venez voir Régis, vous savez quand vous venez, vous savez pas quand vous partez.
Alors j'ai l'impression que d'année en année on rajoute des choses. Ça, vous en avez pas marre de rajouter, vous voulez pas enlever un peu?
C'est bien, c'est un peu la problématique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les machines à écrire, c'est-à-dire que nous on a toujours à cœur de pouvoir innover, de proposer des choses nouvelles, mais c'est compliqué de pouvoir supprimer quelque chose qui fonctionne. Quelque chose que les gens réclament en fait. Et du coup.
En fait, c'est Karim qui rajoute souvent.
Alors nous, on essaie de suivre.
Il nous fatigue, il nous use, mais Karim rajoute souvent. Mais c'est souvent des bonnes idées, c'est payant. Et donc voilà. On peut quand même au moins lui attribuer ce mérite, c'est que ça marche et que c'est pour ça aussi que les gens reviennent, parce qu'il y a des nouveautés. Et ça permet qu'on ne se lasse pas d'une année à l'autre.
Alors je sais que c'est difficile à le dire, mais les institutionnels jouent le jeu. Région, département, tout ce qui est institutionnel, on arrive à se faire aider parce qu'on sait que les festivals maintenant ça devient de plus en plus compliqué, les dotations baissent, on tire sur les bénévoles, c'est partout pareil en Lozère, voire au-delà. On arrive à se faire aider quand même.
Alors disons que si on part du plus petit échelon, bon, tout le monde sait que Marvejols revient de loin, mais je tiens quand même à souligner que donc Marvejols cette année nous donnera une petite enveloppe qui est ce qu'elle est, mais c'est déjà significatif pour Marvejols et qui pour nous déjà est un encouragement. Mais je tiens aussi à saluer tout le soutien de la municipalité qui a quand même activement travaillé pour nous quasiment toute la semaine pour nous mettre tout à disposition. Ils se sont réellement mis en quatre pour faire tout ce qu'on voulait, pour avoir une plage digne de ce nom, pour avoir une scénographie mise en place, enfin ainsi de suite, vraiment. Donc voilà. Le département, ça va être quand même notre interlocuteur majeur à travers et la structure du département et les conseillers départementaux qui nous ont jamais, failli. Qui nous ont toujours soutenus dès la première édition et jusqu'à présent, et que je tiens réellement à saluer. D'ailleurs, demain, on aura sans doute le plaisir d'accueillir pour l'ouverture Sophie Pontel pour l'ouverture du festival. Et la région, ça va être rapide, puisque je profite également de ce petit message pour dire que la région continue, comme depuis la première édition, à se cacher derrière son doigt, ce qui est assez triste, puisque l'événement prend de l'ampleur et est maintenant largement identifié à travers la région, j'ai envie de dire Occitanie. Nous faisons quand même chaque année l'effort de programmer des artistes régionaux, qui est quand même une demande de la région. Malgré cela ne semble pas suffire. Les raisons, je ne les ai pas forcément toutes, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est surtout d'avoir l'aide d'adhésion des festivaliers et puis des gens qui ont envie et des bénévoles. Voilà. Et cela, ça paye beaucoup plus que le reste.
Voilà, et il faut rappeler, donc, on peut adhérer lors de ce festival à l'association Les Formicables pour aider l'association.
Exactement, en fait, tous les concours sont les bienvenus. Alors, il y a des gens qui viennent simplement qui viennent avec l'envie d'adhérer, mais pour réellement aider, pour filer un coup de main sur une buvette, sur une billetterie, pour tenir un stand, une performance, un atelier, et qu'on remercie par avance. Et ensuite, on a aussi, avec le recul, on a vu qu'il y a pas mal de gens qui viennent simplement pour nous soutenir avec un petit soutien financier, parce qu'ils savent que nous sommes une petite association dans laquelle, du premier au dernier, nous sommes tous uniquement bénévoles.
Et bien sûr, avant de passer la parole à Marie, les buvettes, etc., il y a toujours une cuvée spéciale Bestia, Marvelous Pop Festival.
Ça, c'est la question qu'il faut poser à Fabien, ça, c'est lui le chef.
Fabien, qui donne des cours d'ouverture de fût, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, on fait la formation sur place, c'est toujours utile.
Oui, c'est sûr.
Oui, donc ça fait 3 ans maintenant qu'on propose avec Pierre Chazelle de la Bestia à Chanac. On lui demande de nous faire une cuvée spéciale pour le Marvelous.
Une cuvée pop.
Donc il nous fait 2500 litres tous les ans, spécialement pour nous. On l'a pas goûté encore cette année, pour être franc.
Bulles multicolores.
On est sûr que des bulles multicolores. Mais on est sûr qu'elle sera bonne et on a hâte de la goûter demain, ouais.
Marie, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, je voulais parler de la commission citoyenneté, parce que quand on organise un festival, il y a, je crois, 17 ou 18 commissions et on n'a pas parlé de l'éco-citoyenneté. Je voulais préciser qu'on fait des efforts pour le tri des déchets. Donc, il y a des points où les festivaliers peuvent trier leurs déchets. Et cette année, on a passé beaucoup, 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 beaucoup de temps à fabriquer des oses. Donc, c'est la monnaie d'échange du festival, puisque sur les points, aux buvettes, on paye pas avec de l'argent, on paye avec des oses. Et cette année, plutôt que de donner des petits morceaux de carton qu'on réimprime chaque année, on a décidé de faire des jetons en bois qu'on a fabriqués nous-mêmes en les sciant, en les ponçant, en les vernissant, en les tamponnant,
Enfin, j'ai pas dit dans l'ordre, mais
ça, c'est une idée de Karim en janvier. Ah, on
alors,
a rien à faire.
Karim,
alors,
ça, c'est Mathilde. Mathilde de Mio, si on peut la citer.
Voilà.
On va découper.
Voilà, elle nous a dit, on va faire des jetons en bois. Si on s'y donc, met tous, en 3 heures, c'est fait.
Voilà, donc on a mis 3 semaines. 7000 jetons.
La différence, c'est ça. C'est que quand Mathilde propose quelque chose, c'est pas forcément une mauvaise idée. Par contre, au niveau calendrier, c'est pas forcément.
C'est pas sympa, Karim, de balancer.
Ah, non, mais c'est la vérité.
On est là pour tout dire.
Exactement. Et quand et on aussi, aura besoin on peut... de vérité, on t'appellera.
On peut parler aussi des éco-cups. Voilà, il n'y a pas de gobelets en plastique. Il y a des, des gobelets en plastique, mais réutilisables à l'effigie du festival. Voilà, je voulais parler de l'éco-citoyenneté.
Et l'éco-citoyenneté, les toilettes sèches sur.
Les toilettes sèches, le exactement.
Le tri sélectif. Et surtout, voilà, et puis tout ce qu'on essaie d'utiliser aussi pour la Céno, on essaie de faire de la récup. Et puis voilà.
Dans les choix des produits aussi, dans les buvettes, ce sont des produits bio. Voilà.
Alors, vous proposez à manger pour le pique-nique chic.
Exactement.
Donc ça, voilà, oui, il faut prendre assez tôt parce que moi-même, je me suis fait avoir l'an dernier, je suis arrivé un peu tard.
On s'est tous fait avoir, je crois.
On s'est tous fait avoir.
Commencez par nous. Hein.
Comment on peut se restaurer sinon sur le Marvelous ?
Alors, on a le plaisir d'accueillir plusieurs food trucks, en fait. Des restaurateurs ambulants, chacun avec des spécialités différentes. Donc vous pourrez déguster, alors il y aura sa part de choses assez basiques, de la pizza, burger, de la galette bretonne, de la crêpe, mais surtout des moules à la plage, ce qui est assez inédit à Marvejols. Et du coup, voilà, l'année passée, on a eu la chance de pouvoir accueillir un marieur. C'était la première fois que ça se passait.
Il n'y avait pas des huîtres l'an dernier ?
Si.
Ouais. Oui.
Huîtres et moules, exactement.
Il me semble.
Et du coup, cette année, on s'est activement mis à la recherche d'une solution pour pouvoir reproposer quelque chose comme ça.
Et donc voilà, on a trouvé, donc il devrait y avoir brazoukade géante sur l'esplanade à la plage.
Les pieds dans le sable.
Samedi et dimanche, entre midi et 15h.
Excellent. On peut redire un mot de cette plage, on a parlé vite fait, là on est à côté du bord de l'eau avec des sièges installés un peu pour être les pieds dans l'eau et se rafraîchir car il va faire très beau pendant tout le festival. Cette plage, on reste sur le même principe donc sur l'esplanade avec des jeux, des tourniquets pour les enfants, des entresorts dans des caravanes. Comment ça se passe ?
Exactement. Mais aujourd'hui, le Marvelous sans la plage, je pense que ça serait plus le Marvelous puisqu'on ne pourrait plus la supprimer. Ça est devenu maintenant un élément incontournable. Les gens viennent parfois pour ça parce que c'est quasiment la seule fois de l'année où on peut boire un verre les pieds dans l'eau à Marvejols. Et c'est assez inédit la façon dont c'est présenté. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les copains du Hangar Ogori qui, grâce à eux, c'est aussi grâce à leur contribution. C'est ce qui permet d'avoir mis en place tous ces éléments de scénographie qui constituent la plage. L'idée donc, de la plage, donc, bien sûr, c'est des jeux pour les enfants. On a rapporté du sable pour pouvoir mettre un petit terrain de beach volley, une table de ping-pong, un tourniquet. Bien sûr, des tables et des chaises pour avoir les pieds dans l'eau. Mais aussi, après, c'est tout un univers avec le rétro-camping d'un côté, des spectacles juste à côté de la plage, bien entendu, et puis les cours de tennis, comme on le disait, proposés par l'association, le Tennis Club de Marvejols.
Ah, ils auront lieu ici
Juste à côté, derrière
juste
nous.
À côté, d'accord.
Et le lendemain, qu'ils seront placés à la brocante toute la journée. Donc l'esplanade sera entièrement pleine tout le week-end.
Il y a eu un grand changement l'an dernier avec les concerts du soir, qui sont passés place de l'église l'an dernier, c'est ça ?
Exactement.
Je ne me trompe pas, qui sont devenus gratuits, qui étaient payants auparavant. Cette année, on reste sur le même principe, au même endroit. Fabien, comment ça se passe ?
Oui, alors ça fait 2 ans du coup qu'on se met sur la place de l'église, parce que le site est magnifique. On l'a passé gratuit parce qu'on cherchait c'est de plus en plus dur de trouver des endroits accueillants. On a de plus en plus de monde. On avait fait au début, on est parti sur les écoles, après on est parti au collège, mais ça devenait trop étriqué. Donc là, on est parti sur l'église. Donc comme l'an dernier, on fait toutes nos soirées sur ce site. On a une vue vraiment superbe. Voilà. Donc
le fait, en fait, voilà, d'utiliser la place de l'église, comme le disait Fabien, le festival grandit d'année en année. On accueille chaque année de plus en plus de personnes. L'année passée, si on reprend les chiffres qui nous ont été annoncés par la boîte de sécurité qui surveille du coup la bonne tenue du festival, on va dire ça comme ça, on est sur à peu près autour de 4000 personnes sur le site histoire au moment du feu d'artifice. Quand on parle du 14 juillet, c'est-à-dire vraiment au pic, c'est 4000 personnes sur le site
histoire.
C'est énorme. C'est énorme. Donc ce qu'on faisait au début, c'est-à-dire refaire le Marvelous dans les cours d'école, aujourd'hui, c'est pas envisageable. C'est plutôt envisageable. Il y a l'année passée, c'est un parti pris. Jusqu'à présent, il y avait toujours 2 soirées gratuites, 1 soirée payante. Et ce qui permettait de faire une soirée payante, c'était qu'on était sur des sites qui étaient clos. quand on a choisi de passer sur le site de l'église, forcément, pourquoi à la place de l'église? Parce que ça permettait, on a pris le parti de mettre en avant le patrimoine. Et le site était joli et ça s'y prête très bien pour ce genre de concert. Et il aurait été dommage de le clôturer. Du coup, il a fallu qu'on prenne un choix de rendre le festival entièrement gratuit. Mais ce n'est pas réellement ce qui nous a poussé à rendre le festival gratuit. Ce n'est pas notre leitmotiv. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui viennent au Marvelous viennent parce qu'ils ont envie du Marvelous et parce qu'ils ont envie de prendre du plaisir ici et qu'ils aiment ce qu'on fait, tout simplement. Mais qu'ils ne viennent pas parce que c'est gratuit. Donc on ne communique pas réellement sur le fait que ce soit gratuit, mais vraiment sur le fait que les gens puissent venir pour prendre du plaisir.
Madou communique sur le fait que ça soit gratuit, hein, quand même, quand c'est payant.
Fabien, on pardonne tout à Madou.
Ouais. Fabien, qu'est-ce qu'on retrouve pendant ces soirées du Marvelous?
Alors du coup, le samedi, on reste sur le plutôt axé sur le traditionnel rock garage. Hein, c'est la ligne qu'on a depuis le début. Donc c'est DJ Serkis là qui va attaquer dès 20h sur la place de l'église. On est sur un DJ Selecta, donc Freakbeat Garage. Ensuite on a les Thunderbeat. Alors c'est leur premier concert en France, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ils viennent de Russie et voilà, je pense que ça va être pas mal. Donc c'est un groupe voilà qui
va pas repartir, qui va rester à Marvejol.
C'est une compagnie régionale, c'est ça?
Non, celle-ci c'est voilà, c'est pas la région.
Alors une nouvelle vérité de Madou.
Voilà.
C'est une compagnie régionale de Loustel, voilà, sibérien.
Voilà, donc on est content de les avoir là pour leur premier concert en France. Après, on est les Cayman King, donc pareil, on est sur du petit garage. C'est un groupe lillois qui, eux, ils vont attaquer à 22h45. Et ensuite, on finit avec The Experimental Tropic Blues Band. Donc, eux, ce sont des Belges. Ils ont un album produit en 2004 par John Spencer Blues, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est pareil, on est vraiment ravis d'avoir. On est une programmation éclectique, des gens qui viennent de loin et qui ont plaisir à venir. Et voilà, qui sont bien motivés, on est très content de les accueillir.
Ça démarre à quelle heure? Ça finit à quelle heure cette soirée à peu près?
Donc là, le samedi, ça commencera à 20h, et puis après, dernier concert à minuit, jusqu'à 2h du matin, quoi.
D'accord. On met un coup de ménage, on dort 3h et c'est reparti. C'est ça, Karim?
Exactement.
C'est ça.
Dimanche soir.
Dimanche soir, alors voilà, ça c'est la nouveauté, on part sur la soirée Soul Funk. Donc on a Nassim DJ qui attaque avec son funky Elvis Party Mix. Il attaque à 19h et il refera un set à minuit. Et puis après on fait à 21h, sur 21h, 21h30, on fait une Soul Train Line. Donc la Soul Train Line, c'était l'émission Soul Train qu'il y avait aux États-Unis dans les années 70. Donc en fait on se met en ligne par deux. En général, bon, c'est un homme et une femme, mais bon, peu importe. Et puis on sort des tricks de danse et de danse. Et voilà, et on suit une file comme ça et on.
Une battle de danse.
Et on fait une battle de danse.
Une petite...
Et donc ça sera animé par le crier de la Quaros. Et il y aura John Groove et Electramousse, des imprévérisibles qui seront là pour animer aussi ce moment. Donc avant on faisait des flash mobs. Et pareil, on s'est dit, bon, la flash mob c'était sympa, hein. Mm-hmm. Mais on s'est dit, cette année on fait la Soul Train et on est parti, quoi. Il y aura une captation vidéo. Je pense que vraiment ça va être vraiment sympa. Donc il faut que les festivaliers viennent, on les encourage. Ce sera les bénévoles avec les festivaliers. Tout le monde joue le jeu et ils pourront s'entraîner justement l'après-midi avec les imprévisibles en ville. Ouais.
Exactement. Et puis l'idée de cette Soul Train, en fait, c'est que jusqu'à présent, la flash mob, c'était, on va dire, un événement, on va dire, qui concernait davantage les bénévoles, en fait, c'était puisque les bénévoles avaient l'occasion de répéter une chorégraphie tout au long de l'année pour pouvoir la préparer et la proposer le soir de l'événement. Et l'idée de la Soul Train, c'est que réellement tout le monde puisse participer, festivalier comme bénévole. Et c'est vraiment l'idée, c'est quelque chose qui permettra d'intégrer tout le monde. Et...
On a assez de place pour faire entrer tout le monde, là?
Ah bah on va essayer, on va pousser les murs, mais ça devrait passer, ouais.
Madou propose d'investir l'église.
Sinon, hein, faut pas le dire, ça, on peut pas, c'est une indiscrétion, ouais. Tout annoncé.
Et après, donc, on a voilà, le groupe de la soirée pour cette soirée Soul Funk, ce sera donc les Marvelous. Donc voilà, le hasard a bien fait les choses. Les Marvelous.
C'est ce que je me demandais en regardant là. Ils ont
pas changé de nom pour le festival.
Non,
c'est...
ils ont pas changé de nom.
Non, ils s'appellent Marvelous. C'est le sillon qui nous ont dégoté. Pas dégoté.
Pas de lapsus, Fabien.
Pas de lapsus. C'est le sillon losé qui nous ont trouvé. Ça va être un super rouge. Ils sont 7, ils sont 9 musiciens.
Ouais.
Et ils vont jouer toute la soirée. Bon, ils vont faire une petite pause. Ils ont un set de composition et un set de reprise.
Et ils vont jouer notamment pendant le feu d'artifice qu'on va tirer aux alentours de 22h30. Donc ça, c'est un moment vraiment à pas rater. Le feu d'artifice en musique, je pense que ça vaut le détour.
Génial. Et après...
Et après, démontage.
Et après, démontage.
Oui, après, comme j'avais dit, voilà, je l'ai dit au début, il y a Nassim DJ donc, qui fait un set à 19h et qui le reprend à minuit après le concert de Marvelous.
Pour le démontage.
Qui va tout démonter tout seul.
Voilà.
Ouais, c'est tout démonté. Qui va démonter à sa façon, ouais. On va dire ça comme ça.
Je suis un jeune, je suis de Marvejols. Je me dis, tiens, à quelques heures du festival, j'ai envie de venir donner un coup de main. C'est encore possible ?
C'est encore possible. C'est encore possible. Il y a, pour ça, il suffit simplement de trouver un bénévole qui vous indiquera forcément la personne à qui s'adresser, parce qu'il y a des responsables de commission, et on trouvera toujours du boulot pour quelqu'un. Donc toutes les bonnes volontés sont toujours les bienvenues. Il y a toujours des petites choses à faire. Comme on vous l'a expliqué tout au long de la programmation, c'est un festival qui prend place dans toute la ville, de l'église à l'esplanade, et sur toutes les places, et pendant 2 jours, avec tout un tas de performances et de prestations. Et du coup, forcément, tous les coups de main sont toujours les bienvenus à droite et à gauche. Et c'est ce qui permet aussi de soulager certains pour prendre davantage de plaisir à participer et à profiter du festival.
Marie, tu veux rajouter quelque chose ?
Je crois qu'on a fait le tour.
C'est bon pour toi, je crois qu'on a bien fait le tour. Merci. Avant de finir, on sait que les autres années, il y avait des gens qui venaient de loin pour venir au Marvelous. C'est pas un festival uniquement lozérien. C'est toujours le cas. On voit des gens qui viennent chaque année, qui reviennent d'autres départements.
Alors oui, moi c'est quelque chose qui me surprend toujours. Quand on a créé ce festival il y a 5 ans, c'était un festival sans ambition majeure. On a créé ça ici, on ne savait pas réellement où on allait. Et quand je vois qu'aujourd'hui, 5 ans après, il y a des gens qui nous appellent en janvier pour connaître les dates du festival, pour poser leur congé, pour venir, alors là on se dit que oui, effectivement, le festival commence à porter ses fruits. Et donc c'est quand même assez satisfaisant.
Bah, on peut parler aussi, on a croisé l'autre soir des jeunes Marvejolais qui ne sont peut-être plus à Marvejols mais reviennent pour le festival, et le festival est l'occasion de se retrouver aussi entre ex-Marvejolais.
C'est devenu un rendez-vous en fait, c'est-à-dire que tout le monde revient voir sa mamie, son frère, son cousin à l'occasion du Marvelous. C'est aussi un prétexte pour revenir.
Merci à vous quatre. Voilà, le Marvelous, on le rappelle, qui démarre dans quelques instants. N'hésitez pas à venir. C'est pendant ces 2 jours et demi. C'est non-stop.
Non-stop.
Merci à vous.
Merci.
Merci. Merci.
Allez, on poursuit cette émission avec DJ Sorkis qui est là avec nous, qui va fermer la première soirée de ce soir du vendredi 23h30 sur la place Cordès et qui ouvrira celle du samedi. Bonjour.
Salut.
Merci d'être avec nous. Pour commencer, je te laisse un peu te présenter, un peu nous expliquer d'où tu viens.
Alors, donc moi, je suis de Lille, donc du coup, je suis DJ, particulièrement dans tout ce qui est dans le style garage, breakbeat, tout ce qui est un peu toute la contre-culture des années 60-70. J'essaye de passer un peu toute cette bande son là, en fait. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus.
Comme par exemple.
Alors, il y a plein de groupes, mais tu vois, un peu pour te résumer, en gros groupes que j'affectionne énormément, que je passe pas non plus forcément en set, je dirais le Jefferson Airplane par exemple, tu sais.
Ok. Les Kings
aussi, ouais, c'est tout ce style là c'est pas des groupes que j'ai passé, parce que c'est des groupes qui sont même très connus et le but n'est pas là non plus pour ça, mais passer tous les groupes qui ont été influencés ou qui ont influencé ces groupes, mais qui ont peut-être pas été produits à la même aura que par exemple des groupes comme les Beatles, les Stones, les Kings, les Who, enfin j'en passe, il y en a plein d'autres. Et moi, mon but, c'est vraiment de passer tous ces petits groupes qui ont sorti un 45 tours. Ouais, mais ils ont sorti une démo, tu sais. Et montrer aux gens que les 60s, c'est vraiment une mine d'or. Enfin, moi, ça fait 5-6 ans que, même plus, ça fait 8 ans que je passe des disques. Et j'en découvre tous les jours.
Comment tu les découvres, justement? Comment t'arrives à...
C'est assez compliqué. Alors, j'ai eu la chance du coup d'être né dans une génération avec Internet. Du coup, Internet, ça permet de découvrir énormément de choses. Et en plus, du coup, vu que je jouais souvent, je joue encore souvent à l'étranger, je me retrouve avec d'autres DJ, donc on partage nos sons. Enfin, on partage pas tout non plus parce qu'on a quand même nos pépites qu'on garde pour nous. Mais des fois, on se retrouve au platine, je dis purée, mais ça c'est génial quoi, dis-moi ce que c'est. Et ça marche à peu près comme ça quoi. Et ça c'est top. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que parfois on a des sur des soirées, alors les gens sortent leur portable, ils veulent Shazamer le son. C'est vrai que c'est pas sur Shazam, c'est pas sur Spotify. Excellent. C'est pas sur YouTube. Et ça c'est génial parce que du coup les gens reviennent pour écouter des disques. Là c'est pas vraiment un DJ set, c'est une sélection de disques, mais c'est des disques qui sont peu connus, voire même inconnus. Du coup, les gens viennent pour ça et ça, c'est top, quoi. C'est assez gratifiant.
Tu mixes sur vinyle ?
Ouais, je mixe que sur vinyle et que sur 45 tours. Sur 45 tours pour deux raisons. Parce que la première, c'est que le son est meilleur, t'as plus de place. Donc le son est pas vraiment, est pas non plus compressé. D'autre part, parce que c'est le format le plus utilisé à l'époque, dans les années 60-70. Souvent les groupes n'avaient pas non plus les moyens ou même cherchaient pas à sortir un album, ils sortaient un 45 tours, voire un EP. Donc c'est ce qui se fait le plus couramment à l'époque. Et puis c'est plus simple quoi pour jouer, parce que tu cherches pas la piste comme sur un 33 tours.
Les styles musicaux, ça vient, ça repart, ça revient. On en est où de cette musique des 60s
En France ?
En France.
Alors en France, il y a une scène qui existe depuis qui a un gros revival aux années 90. En Angleterre, tu as revival mods en fait 80-90 avec les jams qui sont apparus dans les 80. Et ce mouvement mods, il y a eu ça un peu en France. Ça a pris surtout sur Paris, puis sur d'autres villes aussi. Ça s'est un peu estompé. Il y a toujours quelques villes et même des festivals qui font ça. Je pense là dernièrement, j'ai joué au Mess My Mind au Havre. Et puis à Caen aussi, t'as une énorme soirée, c'est le Week-end Commence Ici qui se fait. C'est une soirée sur une soirée, c'est même un week-end complet. Il y avait d'autres trucs, il y avait le Bal des Minets aussi à Paris au début des années 2000. Il y a eu pas mal de choses, mais c'est vraiment une scène qui marche. Enfin moi, la scène dans laquelle je joue, ça marche surtout à l'étranger parce que dans les années 60 en France, on a eu les Yéyé, etc. Enfin, ce que tout le monde connaît, mais on n'a pas eu vraiment de scène, tu sais, très underground comme il y a pu avoir en Angleterre, aux États-Unis. Et ça, c'est, alors, ce qui est assez étonnant, c'est que ça marche vachement bien en Allemagne. Il y a vraiment une scène très très garage avec les gens viennent pour écouter de la fuzz, tu sais. C'est assez marrant à voir. Et ils ont vraiment un public propre à ça. Les gens sont même lookés, quoi. Enfin, de la tête aux pieds, c'est avec des bols à la Brian Jones. C'est assez rigolo.
Comment t'as atterri ici à Marvejols ?
Alors du coup, c'est M qui m'a contacté. Elle m'a envoyé un message et je savais pas du tout. M a vécu à Lille et on s'était jamais rencontré avant. Et je pense qu'elle m'a rencontré via les Cayman Kings, parce que les Cayman Kings qui jouent après-demain, le samedi, c'est des super potes à moi. Et j'ai connu les Cayman Kings quand je suis arrivé sur Lille. J'ai passé des disques pour leur première warm-up, leur release party en fait. J'ai fait une warm-up en fait pour leur soirée. Ça s'est super bien passé. C'était dans un musée d'histoire naturelle. Avec des animaux et tout, c'était totalement barré comme truc, c'était top. Puis après, on est devenus super potes et puis ils m'ont dit « Ouais, est-ce que tu veux faire le prochain clip des Cayman Kings ?» Je dis « Bah, pourquoi pas, quoi, ça peut être un défi assez marrant à faire. » On l'a fait et je pense du coup que M a dû me voir dans le clip et elle a dû remonter par rapport à ça. Et ouais, voilà, quoi.
Génial. Je veux faire la fête ce soir. Quel morceau je passe ?
Alors, moi, il y a un morceau que j'adore qui me fait marrer. C'est français. C'est très peu connu, enfin français, c'est suisse même. C'est un mec qui a sorti 2-3 45 tours, pas du tout connu, il s'appelle Gérard Gray. Donc Gérard comme Gérard Gray, G-R-A-Y. Et son morceau, c'est Le Poisson Vert. Et c'est vraiment où t'as l'explosion du psychédélisme qui arrive vraiment en France. Et ça se ressent surtout dans les paroles, par exemple dans tous les instruments américains, anglais, mais de la reverb partout. Donc là, t'as ça aussi, mais en plus, t'as les paroles totalement déjantées, quoi. Ça parle d'un poisson vert qui se balade, le mec est totalement retourné, il sait pas trop s'il nage, s'il flotte ou s'il est dans le ciel. C'est très psychédélique et moi ce morceau-là me fait marrer. En plus les gens découvrent le morceau, ils disent mais c'est vraiment bizarre ce truc. Et les gens arrivent à danser là-dessus, je trouve ça génial.
Les 60s, c'est vachement large parce qu'on a du rock qui peut être garage au psyché. T'as une période préférée dans les 60s toi ?
Alors moi j'ai une période préférée, ouais, c'est... Enfin préférée. Oui et non, c'est vraiment une période qui me plaît en particulier. C'est, je dirais, fin 65. Et moi, les 60, je les arrête pas en 69, tu vois. Je les arrête 72 ou même 74. Parce que t'as eu beaucoup de groupes qui sont arrivés assez tardivement. Parce qu'ils étaient plutôt jeunes par rapport à l'époque. Et du coup, par rapport à leurs prédécesseurs, ils sont influencés du son qu'avaient leurs prédécesseurs. Sauf que leur son sortait en 72-73. Alors pour autant, ils ont un son purement 60s. Donc en préférence, ouais, je dirais 66, c'est vraiment le jet à la fuzz qui arrive en 66 aux États-Unis. Ça révolutionne la guitare électrique.
Donc ça, faut le rappeler, c'est une pédale c'est avec une pédale. Un son un peu distorse.
Ouais, c'est une pédale de distorsion, ouais, de guitare électrique. Ou ouais, c'est, Les groupes appellent ça limite une lame de rasoir, quoi, comme si on écrasait sur l'ampli. Mmh.
Que Nirvana utilisait aussi après.
Nirvana utilisait ça, il y a plein de groupes. Mmh. Par exemple, Satisfaction des Stones, l'intro, c'est une fuzz. Mmh. C'est peut-être l'un des premiers morceaux connus pour l'époque où Keith Richards il a acheté une fuzz, il a balancé ça là-dessus et ça a un son très particulier.
Mmh. Plutôt Stone que Beatles ?
Alors je dirais pas plutôt Stone que Beatles, parce que alors, moi j'ai grandi avec les Beatles en priorité, parce que mon père était fan, enfin pas fan des Beatles, mais aimait les Beatles. J'ai découvert les Beatles quand j'étais à l'école primaire, c'était assez rigolo. Et puis après j'ai découvert les Stones, parce qu'un pote de mon père dit « Oh Nico, faudrait que t'ailles voir les Stones ». Et il m'a emmené voir les Stones en concert, et puis j'ai un peu débloqué. Je me suis rendu compte que c'était vraiment deux groupes qui se valaient énormément, qui se complétaient, parce que c'est des groupes qui ont, on le sait pas trop, mais c'est des groupes qui ont composé ensemble, tu vois.
Oui.
Par exemple, I Wanna Be Your Man des Beatles, Jagger et Richards l'ont offert à John Lennon et McCartney. Ils disent, bah, si vous voulez, l'inverse.
Non, pardon. C'est l'inverse.
C'est John Lennon et McCartney qui ont offert le morceau.
En disant, c'est pas une très très bonne chanson, on va leur offrir, et leur 33 tours a explosé au Stone grâce à cette chanson-là.
Grâce à ça, et puis sur plein d'autres choses aussi. Il faut se dire que c'était ils étaient tous sur la même scène, donc même si les Beatles viennent de Liverpool, après ils ont squatté sur Londres, comme énormément de groupes de l'époque. Parce que genre, la scène britannique 60s, au final, elle tourne vraiment en grande partie sur Londres. Et j'ai rencontré des groupes un peu moins connus des années 60, par exemple les Sowows avec Don Fardon, le mec qui a sorti I'm Alive, c'est dans une pub BMW qui est sortie l'an dernier, je crois. Et je parlais avec le chanteur de Sowows qui me disait que au final ils étaient tous sur Londres, mais aux mêmes soirées. Par exemple, ils étaient tous influencés par le rhythm and blues. Et dès que t'avais un bluesman américain, par exemple Muddy Waters ou Jimmy Witt qui débarquait sur Londres, c'était tous comme des gosses, ils venaient tous au concert, donc tout le monde était potes à l'époque. Donc ils sont vachement complétés. Et un concert qui se passe à Londres en 68, c'est le Live at Circus, et ils se sont tous retrouvés là-bas. T'avais par exemple Eric Burton des Animals, t'avais avec qui d'autre,
avec la flûte,
John Lennon qui était là, qui jouait Keith Richards et Jagger chante Sympathy for the Devil sur ce morceau-là. Donc
Jeffrey Tools qui ouvre avec aussi, sa flûte traversière. Ouais.
Enfin, je pense que les 60s c'est vraiment une mine d'or. Et souvent les gens disent chaque décennie se valent. Enfin, musicalement, en termes de créativité et même en quantité de sons qui ont été produits à cette époque-là, c'est hallucinant. Surtout sur la période, parce que souvent on dit les 60s de 59 jusqu'à 63, 64, il se passe pas grand chose, quoi. T'as Johnny Hallyday en France qui reprend les classiques du rock'n'roll, Eddie Cochrane, ça s'arrête là. Par contre, en 64, quand les Beatles commencent vraiment en Angleterre, la vague, elle arrive un an, voire deux, trois ans après en France. Et là, ça explose dans tous les sens. Mais aux États-Unis, en Angleterre, en France, mais pas qu'en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, il y a des groupes qui émergent de partout. Et à l'inverse, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens avaient la possibilité de dire, moi j'ai envie de faire la musique, donc je peux le faire. Et aujourd'hui, un groupe qui fait de la musique, il laisse pas de traces, parce qu'il joue en concert, et on se dit plus, maintenant j'ai pressé un 45 tours. On se dit, on va enregistrer un son, on va le balancer sur SoundCloud, Miss Cloud, et puis ça s'arrête là. À l'époque, on sortait un disque, forcément, pour avoir une trace. Donc des fois, tu retrouves ces petits groupes qui ont juste laissé une trace, ils ont pressé un disque à 200 exemplaires. Et moi, des fois, je me suis retrouvé à sortir un disque, mais ça sort de où? Tu connais pas le groupe, tu sais pas d'où il vient, de quel pays, voilà, tu vois.
C'était prolifique à l'époque, hein. Ils sortaient par année, c'était pas comme maintenant, c'était pas un disque tous les 2 ans, 3 ans.
Non, ils sortaient des disques tout le temps, tu regardes même en reparlant à nouveau des Beatles, les Beatles, ils ont sorti, si je me trompe pas, 10-12 albums. Alors qu'ils commencent en 62 à peu près. Il s'arrête fin 69. C'est énorme.
C'est énorme.
Sachant qu'en plus, il sort des 45 tours. Enfin, t'as une sortie, elle est tous les. Vraiment, au début de leur carrière, c'est 2 albums par an, plus des singles qui sortent tous les 2 mois. Donc, c'est assez hallucinant. Enfin, quand tu y repenses, tu fais. C'est dingue, quoi.
Pour toi, le groupe le plus sous-évalué de cette période, ce serait qui?
Alors, il y en a plein. Il y en a plein. Je pourrais même.
Est-ce que je te parlais des Kings? Parce que les Kings, maintenant, ils sont un peu reconnus, mais c'est vrai qu'ils ont été sous-évalués à l'époque.
Sous-évalués, ouais. Mais quand je te dis il y en a plein, il y en a des milliers. C'est vraiment des milliers. Et pour te dire, j'ai une liste de disques que j'aimerais bien trouver. Par exemple, j'achète mes disques pas mal sur Internet. J'ai une liste, il y a à peu près 1000 groupes.
Ah ouais, autant.
Autant. Donc je pourrais pas te dire un groupe, mais par exemple un groupe sous-évalué, enfin qui a pas été sous-évalué, mais qui a été redécouvert après. Il y a un groupe américain que j'affectionne énormément. Alors je sais pas si tu connais, c'est les 13 Floors Elevators.
Non.
Alors 13 Floors Elevators, c'est un groupe de Austin, Texas, américain, et c'est le premier groupe psychédélique en fait. On dit souvent les Beatles ont lancé le psychédélisme avec Pink Floyd. En fait non, vraiment l'un des premiers c'est ce groupe là et ils ont popularisé le garage avec plein de sons très bizarres. Ils prenaient pas mal de substances, LSD etc. Et c'est vraiment le premier groupe qui sort un album, c'est le nom de l'album c'est The Psychedelic Sounds of the 13 Floors Elevators. Donc les mecs du 13e étage quoi. Donc déjà les mecs sont déjà assez perchés pour l'époque. Et ils ont sorti un single, c'est You're Gonna Miss Me, c'est le tout premier qui sort sur l'album aussi. Et le morceau est sensationnel. Et dans ce groupe là il y a un truc assez rigolo, c'est qu'il y a un joueur de cruche. Je sais pas si tu vois les cruches en céramique, un peu comme les broalés. Le chanteur joue de la cruche en fait. Il crie dedans avec un micro et ça fait un son ultra bizarre, assez mystique. Et ce qui est assez rigolo, c'est quand ils jouent en concert, le mec postillonne dans sa cruche, donc elle se remplit. Et les mecs jouent 2 heures d'affilée. Donc à un moment, le son est différent parce que du coup, ça augmente en termes de quantité dans la cruche. Ça devient de plus en plus grave. Donc les mecs totalement cramés. Le chanteur de Rocky Erickson du 13 Floors Elevators sort un premier album. Le deuxième, il commence à le sortir. On le propose de s'engager. Dans l'armée, il refuse, il se fait passer pour quelqu'un d'amnésique totalement fou. Il finit en asile psychiatrique, donc un peu comme dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, il prend des électrochocs, il ressort encore plus cramé que quand il était rentré, il ressort un album juste après. Enfin, c'est vraiment des groupes comme ça, il y en a l'appel. Et c'est assez hallucinant, enfin surtout quand tu les écoutes, la production est limite aussi bonne, voire même meilleure que les Stones, les Beatles et tous les groupes qui ont suivi derrière, même avant. Et c'est des groupes qui se complètent, qui s'influencent. Et il y en a plein. Et surtout pour le garage, c'est déjà le garage, le terme de garage, il sort, c'est les mecs étaient fans des Beatles, enfin des Beatles à la base, en fait, à la British Invasion qui arrive aux États-Unis. Ils découvrent ça et les Stones arrivent après. Et ce que les Stones faisaient à l'inverse des Beatles, c'est que les Stones reprenaient que des standards de blues. C'est-à-dire que les Américains vont redécouvrir. Bah, toute leur culture à eux, en fait, qu'ils avaient totalement mis de côté, toute la musique afro-américaine, blues, jazz, elle était un peu passée de côté. Et là, c'est des petits blancs, des petits londoniens qui ramènent ça à nouveau aux États-Unis. Et les adolescents aux États-Unis, ça les rend dingues, quoi. Ils ont pas ce son-là, ils sont les Beach Boys, mais ça, c'est de la surf.
C'est ce que j'allais te dire, les Beach Boys aussi, ils sont pas connus pour leur meilleur album forcément. On sait que McCartney était complètement fan des Beach Boys.
Ouais, ouais, tout à fait.
Et vice versa, hein, le chanteur des Beach Boys qui adorait les Beatles.
Et les Beach Boys, qui est quand même pareil, assez dingue, c'est que c'est un groupe qui se revendique de. On fait de la musique surf. C'est pas de la surf du tout, c'est de la pop.
C'est de la pop.
C'est de la pop. Et les Beach Boys étaient détestés des surfeurs.
Et oui. Comment il s'appelle l'album des Beach Boys?
Pet Sounds.
Pet Sounds. McCartney expliquait que dès qu'un enfant naissait d'amis à lui, il leur offrait cet album.
Ah ouais? Je connais pas du tout.
Pour moi, c'est mon meilleur album. À tous ses amis, dès qu'il y avait une naissance, il leur offrait cet album en disant c'est pour moi mon meilleur album.
C'est pas étonnant. Enfin, tu vois, comme tu disais juste avant, là, c'est des groupes qui se complètent et qui échangent entre eux. C'est des groupes qui sont en tournée aussi. Donc ils fréquentent plein de monde. Par exemple, les Beatles, quand ils sont en tournée en 66 aux États-Unis, ils font le fameux live, le Shea Stadium. Ils sont habillés avec des vestes beiges avec des étoiles de shérif. Bref, ils font leur concert. Je crois que c'est l'un de leurs derniers concerts, parce qu'ils arrêtent
quasiment,
parce qu'il y a trop de bruit en concert, c'est mal insonorisé. Le groupe qui fait leur première partie, c'est The Remains aux États-Unis, et groupe peu connu à l'époque, et ils font, c'est un tremplin de faire de faire la première partie des Beatles.
C'était pas Tom Petty and the Heartbreakers?
Alors
non, ça c'est en Angleterre.
C'est en Angleterre.
C'était à l'époque.
Ouais. Mais du coup, les Remains font leur sortie et ils sortent un album qui est monstrueux. Enfin, la qualité du son est vraiment top. Ça groove dans tous les sens. L'album est sur internet, il est disponible. C'est un album que j'adore. Totalement, et que j'ai pas découvert via les Beatles, mais je l'ai su après. Je me suis dit, mais c'est dingue, enfin, ce petit groupe là fait la première partie des Beatles, donc il y en a plein.
Oui, il y en a plein. Pour revenir aux Beach Boys Beatles, suite à l'album Adoré de McCartney, il avait invité le chanteur à venir le voir pour lui dire « Mais j'adore ce que tu fais. »
Du coup, Brian
album,
Wilson, ouais.
Brian Wilson, c'est complètement fou. Il l'avait invité chez lui à Londres et du coup, ils avaient discuté un peu. Et il y avait un piano et McCartney lui avait dit « Tiens, je viens de créer une chanson. » Il lui a joué « Hey Jude ». Et Brian Wilson est parti. Il a dit « C'est bon, j'arrête la musique. C'est fini, c'est fini, j'arrête. » Si tu devais sortir ta chanson préférée du moment là, que tu écoutes en boucle, ça serait quoi?
Alors, ma chanson préférée du moment, alors j'en écoute plein.
J'en écoute beaucoup. C'est difficile.
J'ai acheté un 45 tours aujourd'hui aux États-Unis. J'étais dans mon train, je savais pas quoi faire. Et j'ai un pote américain qui a sorti un disque que je cherchais depuis pas mal de temps, que j'adore. C'est, si je me trompe pas, c'est The Waters, donc l'eau.
Ouais.
Et le morceau, c'est Mother Samuel. Et c'est un groupe qui a sorti, je crois, il me semble, le single est sorti en 68-69. Pareil, un seul 45 tours. Après, le groupe tombe dans l'oubli. S'ils arrêtent ou on sait rien. Et très psychédélique, très garage en même temps. Et c'est produit, allez, je vais dire 68-69, mais ça sonne comme un groupe de 72. Donc en fait, tous les groupes qui ont sonné, par exemple, je prends l'exemple de Led Zepp. Qui parle à tout le monde. Il y a des groupes en 68, même en 67, qui sonnaient comme Led Zepp, parce qu'ils avaient les moyens pour, ou même le son qui en ressortait, c'était ça. Et point barre, c'était comme ça, quoi. Et ça, moi, ça me fait marrer. Des fois, je passe des disques en 7, je me dis, mais attends, ça date fin des 70, ça. Non, c'est sorti en 68. Et les gens ont souvent une image collée sur les années 60, même début 70s. C'est un son particulier, genre yeah yeah yeah, alors que ça peut aller vraiment au-dessus de tout ça. Enfin, la créativité, elle s'arrête pas. Comment te dire? Je pense que la créativité, elle continue au-delà de tout ce qui est commercial. C'est-à-dire que même si on dit aujourd'hui les Kings, etc., c'est des groupes des années 60, ça reste purement des groupes commerciaux. Ces groupes actuellement, enfin, si ces groupes-là existeraient encore aujourd'hui, il passerait sur Virgin Radio ou IFM, etc. Ça serait exactement la même chose. Par contre, il y a d'autres petits groupes, les groupes dont je te parle depuis tout à l'heure. Ces groupes-là, ils sont un peu déjà en marge par rapport à tout ça. Et c'est mis du punk avant l'heure. Rien que dans le son et dans la façon de penser, dans la façon de créer, ils vont au-dessus des lois morales. Concrètement, même dans les paroles, il y a plein de disques qui ont été censurés. Enfin, moi, la plupart des disques que j'ai et qui sont durs à trouver. Sont durs à trouver pour la simple raison, c'est des disques qui ont été censurés à l'époque. Parce que ça va à l'encontre des mœurs. Dans les paroles, on fait allusion au sexe, on fait allusion à la drogue, on fait allusion à l'amusement. Et dans l'éthique et dans la société des années 60, c'est pas ce qu'on attend d'un adolescent.
Je te parlais d'effets de mode, de vagues, ça vient, ça repart. Il y a une nouvelle scène française qui reprend cet esprit psychédélique, je pense, mais qui vit à Londres, je pense à Moodoïd, je sais pas si tu connais.
Ouais, je connais, ouais.
Toute cette scène-là, qu'est-ce que t'en penses, ton avis dessus?
Alors, toute la scène, indie actuelle.
Oui, c'est indie, mais qui reste psyché.
Psyché
quand même.
Avec une grosse influence 60s. Bah, alors, moi, j'adore ces groupes-là, et heureusement qu'ils sont encore là pour ça, parce qu'ils permettent de faire un petit bond dans le temps, et en plus. Rajouter leur touche personnelle. C'est pas non plus genre on monte un groupe de revival, parce que des fois tu te dis il y a pas vraiment d'intérêt. Genre moi j'ai vu des groupes de revival, les mecs qui disent on va remonter un band, on va refaire les Beatles, ça a déjà été fait, donc c'est un peu dommage. Par contre, s'il y a des groupes qui le font très bien, les Gris qui sont venus jouer ici il y a 5 ans, ils font ça parfaitement, c'est limite c'est top. Par contre, ces groupes là dont tu me parles, ces groupes les Anglais ils appellent ça neo-psychedelia, donc vraiment le nouveau psychédélisme. Ça marche énormément. Je pense à un groupe américain, les Brian Johnson Massacre, d'autres groupes, les Liminanas aussi, qui sont français, qui ont sorti du garage français, mais chantés en français du coup. Donc t'as le côté un peu yéyé concon, mais qui suit derrière avec un truc vraiment très dynamique, très psyché. Et là, par exemple, les Liminanas viennent de faire une autre formation avec le mec de Brian Johnson Massacre, c'est Anton Newcombe. Et du coup, ça s'appelle L'Épée. Ils ont sorti leur single là, il n'y a même pas 2-3 mois. Et là, ils jouent pour les plus gros festivals psyché là, cette année. Là, ils sont annoncés pour le Levitation à Angers, si je ne me trompe pas. Donc, non, il y a plein de groupes. Et moi, ces groupes-là, je les admire.
Tu les passes un peu durant tes sets ou pas?
Alors, ça commence. Alors là, pour ce week-end, je n'avais pas prévu. Mais j'aime bien faire la transition et les gens se demandent, se dire est-ce que c'est 60s ou est-ce que c'est actuel. Et des fois, alors des fois c'est même l'inverse. Des fois je fais exprès de jouer un groupe qui sonne très 60s alors qu'il est actuel, et des groupes qui sont hyper avant-gardistes pour l'époque et ça sonne très actuel. Et du coup les gens sont un peu perdus là-dedans, et c'est assez marrant.
Quand on parle des 60s, on pense à l'Angleterre, on pense aux États-Unis. Il y a d'autres pays qui faisaient de la musique un peu étonnante.
Tous. Je vais te dire tous, ouais.
T'as des groupes russes, par exemple ?
Il y a des groupes russes. Alors russes, non. Ouais, russes, du coup,
je prends exprès.
Du coup, tu fais penser à Thunderbeats, le groupe qui joue demain ou après-demain.
Oui.
Alors en Russie, non, c'est très compliqué parce que t'es en contexte de guerre froide.
Oui.
Donc, c'est une dictature, clairement. Purement,
oui.
C'est une dictature. Donc déjà, chose toute bête, coupe au bol en Russie est interdite.
Ok.
De 45 jusqu'à 91 à peu près, c'est interdit. Par exemple, j'ai trouvé, là je te raconte une anecdote, ça me fait penser directement à ça. J'étais une bourse aux 10 il y a 10 ans à peu près, et je tombe sur une radio. Tu sais les radios que tu fais à l'hôpital. Une radio mais pressée, avec du son dessus. Mais là, je vais voir le gars, je dis, mais pourquoi t'as du son qui est pressé sur la radio? Il me dit, bah, c'est très simple, mais c'est un pirate des Beatles, et russe, du coup. Et le seul moyen de se procurer du son à cette époque-là, la pop capitaliste, comme il disait, c'était comme ça, c'était sous le manteau, quoi. Et les Beatles sont très peu sortis. Et quand McCartney est revenu, quand il a relancé sa carrière solo, il est joué dans les années 90, début 2000 en Russie. Il a joué à Moscou avec Poutine.
Back in the USSR. Le
premier morceau qu'il joue, c'est Back in the USSR.
Ouais, génial.
Je trouve ça génial. Mais pour en revenir sur tous les groupes qu'on a vraiment dans tous les pays, et qui s'influencent tous entre eux. Par exemple, en ce moment, je m'intéresse pas mal à tout ce qui s'est fait au Moyen-Orient, en Turquie, par exemple. En Turquie, ce qui est assez dingue, pareil, c'est des pays avec des régimes politiques plus ou moins instables. Donc, l'arrivée de musique, elle est très compliquée. Et ce qui est assez dingue en Turquie, c'est que c'est vraiment au début des années 70, ils se prennent vraiment tout dans la tronche, en fait. Ce qui va se passer, c'est que début 70, ils se prennent tout le swing London, le son 70s, le yéyé, le rock'n'roll, ils se prennent tout. Et en même temps, ils ont leur sang, eux. Ils gardent leur culture. C'est-à-dire, par exemple, un instrument comme le saz, un instrument pas spécialement turc, mais un instrument du Moyen-Orient, ils vont le laisser dans leur composition. Donc, ils vont avoir l'influence européenne, mais en même temps, ils vont garder leur culture à eux. Donc, c'est top. En Inde aussi, en Inde ça arrive un peu plus tardivement, puis après bah t'as tout ce qui est Bollywood, tous les sons de Bollywood qui sont influencés très 60s aussi, t'as de la fuzz dans tous les sens. Donc t'en as vraiment partout, t'as même des groupes de l'Europe de l'Est aussi. Moi j'avais été à Prague il y a 2 ans, et j'avais demandé pour choper des groupes de Prague, j'en ai trouvé 2-3. Alors tout n'est pas bon à prendre.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ça vaut le coup ?
Alors c'est beaucoup de travail pour pas grand chose.
D'accord. Mais quand on trouve une pépite ?
Quand tu trouves une pépite. Et souvent, ouais, ces pépites-là, tu les trouves en face B. Parce que c'est des morceaux qui parlaient pas à l'époque, mais qui parlent aujourd'hui. Et souvent, c'est des face B, et les gens, ils pensent pas écouter les face B. Souvent, tu dis, le single, c'est la face A, c'est pas la face B.
Alors que dans ces pays, c'est l'inverse.
Dans ces pays, même en France, moi, j'ai chopé des fois en brocante, tu sais, j'achète des disques, c'est des EP. Je me dis, je vais écouter le disque en entier. Et souvent tu dis, le super morceau il est sur la première face, et en fait non, il est sur la limite, c'est la dernière piste de la face B. Ouais. Donc c'est assez rigolo.
On se fait envahir, il y a la photo des bénévoles qui arrive. Merci beaucoup DJ Surcase. Allez,
ouais, pas de souci.
Une petite demain tu ouvres avec quoi?
Comment?
Demain tu ouvres avec quel morceau? Tu le sais déjà ou pas?
Alors je suis venu avec 150 disques, donc je sais pas encore trop ce que je vais passer. J'ai préparé un set, pas que je joue régulièrement, mais avec des sons que j'apprécie énormément, et je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Je suis venu avec mon poisson vert, le morceau dont je te parlais tout à l'heure. Et en autre morceau, si j'ai pris quand même un classique, en plus j'ai préparé mon bac avant de partir, et j'étais dans mes 10, je vais quand même prendre un classique, et j'ai pris The Kings, All Day and All the Night.
Génial.
Qui est quand même un très bon morceau, un gros classique, mais qui parle à tout le monde. Et donc voilà quoi.
Bon, ben merci. Merci,
ah, merci à toi.
Très intéressant. 23h30 demain et tu rouvres samedi, donc vers 21h.
C'est ça, ouais.
C'est ça. Allez, merci. On vous invite bien sûr au Marvelous Pop Festival qui débute, on le rappelle, ce soir. Cette émission passe vendredi midi. N'hésitez pas à venir. Ciao.
Sur la plage abandonnée.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7.